Émission spéciale des poches sous les yeux, dans le cadre de la résidence de Stéphane Bouquet à l'Université François Rabelais de Tours.
Artiste en résidence, c'est bien joli, ça fait un peu ronflant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je suis allée à la rencontre de Stéphane Bouquet en décembre à la librairie Le Livre, place du Grand Marché à Tours. 2 heures de conversation hautement perchée, je préfère vous en faire grâce et vous propose un Reader Digest.
Donc Stéphane Bouquet est écrivain, poète. L'un et l'autre, nous sommes d'accord pour considérer, ce sera une chose qu'on pourra soulever comme discussion, considérer la poésie comme une catégorie de la littérature. Une des choses qui me questionne, c'est le rapport effectivement de tension et d'écart entre la question poème et prose. Et alors nous reviendrons très précisément sur le rapport qu'entretient aussi Stéphane avec la poésie américaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle lui dit à lui de si particulier par rapport à la tradition européenne. Donc ce sont des poèmes de l'expérience du sensible, à la fois impressionné et attentionné. Ces deux mots, je dis impressionné et attentionné. Impressionné, j'entends au sens photographique, c'est-à-dire le poème comme comme qualité sensible de surface. Pour garder une empreinte, une trace, une forme, une lumière, hein, une teinture, un geste et un visage. Et attentionné au sens où cette attention est la forme d'une connaissance élémentaire, immédiate, d'un être, d'un objet ou d'un événement. Est-ce que tu
Oui, mais pour l'instant, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je ne dis rien. Donc, c'est bien, tu as fait le travail pour moi. Et maintenant...
L'autre chose, c'est que les poèmes, pour moi, les siens en particulier, sont le constat mélancolique, hein, la description d'un état de fait effectif et concret d'une séparation. Peut-être que le travail du poète, c'est effectivement de mettre, d'éprouver, de trouver une forme à cette expérience de cette séparation.
Quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'avais pas du tout l'intention d'écrire de la poésie parce qu'il me semblait que la poésie était quelque chose dont je n'étais pas capable, en fonction de ce que je connaissais de la poésie. C'est-à-dire, je connaissais de la poésie ce qu'on m'avait globalement enseigné à l'école, et ça me semblait être une poésie très, si j'ose dire, très d'au-dessus. À la fois, je pouvais trouver ça tout à fait admirable, mais cette hauteur de vue, en fait, je me sentais pas capable de la voir. Et donc, j'ai d'abord commencé à écrire de la prose et des romans. Cette vieille expérience romanesque, j'en ai fait quelque chose après. Et le grand problème de mes romans, c'est que, en fait, j'arrivais pas à les tenir pour deux raisons. C'est que, d'abord, je crois que quand on écrit un roman, il faut quand même croire à ce qu'on raconte. Et ce qui m'arrivait, moi, en général, c'est qu'au bout de 10 pages, je me disais, mais quoi ? Enfin, j'avais du mal à croire à ce que je racontais, je n'y croyais plus. Et donc, en fait, dans le roman, bizarrement, j'avais un rapport au réel qui était très problématique ou très compliqué, parce que toute cette fiction qu'il fallait mettre dedans pour construire, pour faire avancer, me séparait des choses, d'une certaine manière, m'éloignait du monde. Et j'arrivais à finir mes romans, mais ils n'étaient pas très très bons. J'avais toujours l'impression d'être un peu trop loin du monde. En fait, le curseur me semblait mal placé. Et la deuxième chose, c'était une question de temps, de gestion du temps. C'est-à-dire, le roman, c'est quand même, on peut dire, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du continu » pour parler du roman. Et je pense que le roman, c'est vraiment quelque chose qui consiste à fabriquer effectivement du continu. C'est-à-dire, on prend le monde et puis on essaie de construire quelque chose qui fasse monde, d'une certaine manière. Et j'avais l'impression que c'était pas le temps qui me convenait. Et mes romans, de fait, étaient totalement des sortes d'échardes. C'est-à-dire des sortes de boue complètement... Alors, après, je disais, c'est nouveau roman, mais bon, après, j'étais un peu trop... Enfin, c'était trop tard, le nouveau roman, donc ça pouvait pas... Et en fait, j'ai compris à un moment, un jour, j'ai écrit un poème, je me suis dit, ah, c'est pas mal, la poésie. J'en avais jamais écrit de ma vie, en fait, de poèmes. Enfin, peut-être, quand j'étais adolescent et que j'étais amoureux, j'en avais écrit, mais je les avais oubliés. Et en fait, j'ai écrit ce poème, et tout d'un coup, je me suis dit, ah, ce qui est intéressant dans le poème, c'est qu'il permet de gérer complètement autrement le temps. Je me suis rendu compte qu'en accumulant des poèmes qui étaient des instants, on pouvait créer quelque chose qui était une forme du temps, mais qui était une forme du temps discontinu et non pas une forme du temps continu. Et il me semblait plus proche de ce que c'était qu'une expérience humaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment vivant, c'est-à-dire vraiment conscient d'être vivant, à quelques moments dans notre existence, mais la plupart du temps, c'est un tapis roulant. On est sur le tapis roulant, et puis par moments, ce tapis roulant cristallise, il y a une sorte de petite épiphanie, et on est traversé par la vie. En fait, une des choses qui m'intéresse beaucoup, effectivement, c'est de penser le temps, et de penser la représentation du temps. Pourquoi écrire de la poésie ? La seule raison valable que je peux trouver d'écrire de la poésie, c'est d'accueillir le monde, là. C'est-à-dire de... c'est de... au fond, de dire que les choses ont été là. Et de dire, bon, voilà, il y a eu des choses, et c'est notre responsabilité de vivant, d'une certaine manière, c'est de nommer les choses qui sont là, enfin, de vivant qui a un rapport avec la littérature. Et le poème est là pour en prendre acte. Et donc, c'est cette surface-là, le poème, c'est, là, c'est cette surface sonore où le monde vient cogner comme sur un petit gong, plutôt, enfin, ça peut être des gros gongs. Si c'est Allen Ginsberg, c'est des gros gongs, mais chez moi, c'est plutôt des petits gongs. C'est plus japonisant, c'est ça. Et donc, la subjectivité, il y en a, évidemment, mais je voudrais l'atténuer au maximum, mais elle est absolument présente parce que je pense que c'est là où le monde vient me cogner et c'est ça qui fait que je peux répercuter le monde en un nouveau monde d'une certaine manière. Donc il y a une phrase que j'utilise beaucoup de Walt Whitman que j'aime beaucoup quand j'ai un problème. Walt Whitman dit je me contredis, très bien, alors je me contredis, je suis vaste, je contiens les multitudes. Et c'est vrai au fond, on se dit être contradictoire, c'est aussi une façon de ne pas être seulement soi. Ce que la résonance du monde sur nous fait comprendre, c'est qu'on est un jeu, évidemment, mais qu'on est aussi plein d'autres choses et qu'il n'y a pas assez de pronoms personnels dans la langue pour rendre compte de ces autres choses que nous sommes. Évidemment, on se pose des questions, du coup, des questions qui sont des questions linguistiques pour ça, puisque les seuls outils qu'on ait, c'est des outils linguistiques. Alors, cette question des pronoms, elle me semble... Par exemple, il y a une figure de style que j'aime beaucoup, pour devenir un peu technique, mais qu'on appelle l'épanorthose. Et l'épanorthose, en fait, c'est le fait de changer de sujet dans la phrase. Par exemple, vous commencez une phrase... Parfois, elle sentait venir un désir de l'âme, et c'était quand même un désir. Moi aussi, je fais en sorte de survivre. Oui. Donc ce passage du « elle » au « moi », et ça m'intéresse beaucoup pour cette raison, en fait, que ça permet de devenir plusieurs, en fait. Et la question que je me pose, et « nos Amériques », enfin, il y a beaucoup de pluriel dans mes titres, parce que la question que je me pose, c'est comment on est plusieurs. Nos Amériques travaillent beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'être le voisin de quelqu'un, en fait. Parce que c'est quand même intéressant, cette question de se dire, tiens, est-ce que le fait d'être le voisin de quelqu'un, ça me change ou pas? Est-ce que ce simple contact, qui est un contact où il n'y a rien qui passe, mais est-ce que quand même, entre le mur d'une maison et le mur d'une autre maison, il y a de la porosité, il y a suffisamment de porosité pour que ça passe? Si vous voulez, en fait, moi, j'aurais voulu écrire avec les choses mêmes, donc j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de langage. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on voit le moins de langage possible.
Alors, c'est cette séparation dont on parle au commencement, cette douleur-là, finalement, au bout du compte, de ne pas être les choses mêmes et d'être obligé de les dire.
Voilà. Eh bien, soit on accepte cette séparation, on est grand et tout ça, on est adulte et on se dit, bon, ben, on est séparés, c'est comme ça. Soit on est comme moi et on se dit, ah non, c'est vraiment pas bien d'être séparés. Et donc, on écrit une poésie qui essaie de faire en sorte que cette séparation soit la moins forte possible. Et c'est vrai que, par exemple, pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait que ma poésie soit très très simple pour que, du coup, on voit pas le langage. Comment le dire autrement, mais... Et je crois que si je devais dire quelle forme de vie m'intéresse, c'est la vie commune, au double sens du terme, c'est-à-dire la vie ensemble, en commun, comme un transport en commun. La vie, c'est comme un transport en commun. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de transports en commun dans tout ce que j'écris, parce que... et aussi, c'est la vie commune, c'est-à-dire la vie plate, la vie basse, la vie horizontale, la vie vulgaire.
De l'homme du commun.
La vie de l'homme du commun. La vie de l'homme des foules, en fait. Et la vie de l'homme démocratique. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans la poésie américaine, c'est que la poésie américaine a essayé de penser ce que c'est que l'homme démocratique, en fait. Où j'essaie de faire en sorte que tout, ou le maximum des choses soient à égalité, et que... au fond, il n'y a pas le sentiment du tout, que le poème ne donne pas le sentiment d'une hiérarchie. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie commune, au fond, au deuxième sens du terme, c'est-à-dire pas la vie ensemble, mais la vie triviale, disons. C'est que la vie triviale rabaisse tout, d'une certaine manière, dans une grande égalité qu'on pourrait appeler de la survie. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais dans une grande démocratie littéraire, en fait. C'est-à-dire dans le sentiment que, puisque peut-être que créer des démocraties réelles, c'est de l'ordre de l'impossible, peut-être que la littérature pourrait se proposer comme cette idée-là, cette tâche-là, cette responsabilité-là, de donner une image possible de ce que serait qu'une démocratie littéraire. En disant ça, je pense à des textes que Gertrude Stein a écrits, qui s'appellent Lectures in America, conférence aux États-Unis, enfin en Amérique. Et dedans, elle dit, bon, il y en a quand même marre. En fait, la poésie classique met en avant deux choses, le nom et l'adjectif. Le nom, parce que c'est la chose qui nomine, enfin qui fait être, et puis l'adjectif, parce que ça qualifie, donc ça donne une sorte de teinte ou d'épaisseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit peuple des mots. Les adverbes, les prépositions, les pronoms, enfin, toutes ces choses qui ne sont pas prises en compte par la phrase traditionnellement ou qui sont considérées comme à côté. Et Gertrude Stein propose de faire une poésie où finalement, toutes les catégories grammaticales seraient à égalité. Ça, c'est une invention littéraire absolument incroyable et qui propose un modèle de démocratie, en fait, un modèle du vivre ensemble.
Oui, oui, oui. C'est bien cet homme qui est chargé des ateliers de création avec les étudiants. Il faut que j'aille à la fac pour les rencontrer.
Donc moi, c'est Océane. Je suis en L2 d'anglais. Et donc, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture avant, mais j'écris depuis toute petite. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir écrire au sein d'un groupe à la fac, dans l'univers de la fac, et de m'améliorer, quoi.
Moi, c'est Florian, je suis en deuxième année de musicologie. Pareil, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture avant, mais j'écris, j'ai toujours écrit en parallèle avec la musique, donc depuis que j'ai commencé. Et oui, un atelier d'écriture comme ça dans la fac, ça permet un peu de faire autre chose et d'avoir un petit moment libre le jeudi après-midi pour se consacrer à une autre passion.
Bon, d'accord, je vais essayer d'en savoir plus. Je me dirige maintenant vers le bureau de Cécile Thomas, chargée des résidences d'artistes à la fac.
C'est la 14e résidence qu'on accueille dans ce cadre-là. Donc, ce sont des résidences qui commencent en octobre et qui finissent en avril, donc qui suivent l'année universitaire.
D'accord, c'est systématique, voilà. Sur l'année.
Et
d'accord.
Tous les ans, on change de discipline, on va dire. Mm-hmm. On a accueilli des chorégraphes, réalisateurs, professionnels du spectacle vivant, traducteurs, plasticiens, enfin vraiment auteurs de bandes dessinées. Voilà. On ouvre surtout. Et cette année, Stéphane Bouquet, c'était vraiment une envie de revenir à l'écriture. Puis, un travaille sur la poésie aussi.
Stéphane Bouquet, en plus de donc, il mène ses ateliers d'écriture, il propose différents événements tout au long de l'année, donc spectacles de danse, ce genre de choses. Comment est-ce que vous avez construit ce projet ? Est-ce que c'est simple de motiver des étudiants quand à la base on part sur un atelier d'écriture, mais que c'est pas la seule et unique chose qui leur est proposée ?
Alors, ce qui est difficile, c'est de leur faire comprendre l'ampleur du projet. Ouais. En fait, on leur dit oui, mais c'est pas que un atelier d'écriture, parce que là vous avez aussi 6 ou 7 soirées qui vont venir nourrir votre travail, et puis ben il va falloir venir à ces soirées là parce que autrement vous allez être décalé par rapport aux autres du groupe qui vont eux suivre les soirées. Et en fait, le principe de ces résidences là c'est vraiment l'atelier ou laboratoire plus exactement, où va se faire un travail de recherche et de création avec l'artiste, parce que le principe c'est vraiment que les étudiants créent une œuvre ou une œuvre multiple avec l'artiste qui est présent, et en même temps qu'il y a un volet où ils sont spectateurs, donc toujours sur notre principe un peu du travail de l'université, qui va leur permettre de se nourrir. C'est-à-dire que Stéphane Bouquet, à côté du labo, il a prévu des rencontres avec des réalisateurs, il a prévu un stage de danse, il a prévu des soirées de projection de cinéma, il a prévu des rencontres littéraires qui sont donc ouvertes au grand public, mais les étudiants qui suivent le labo sont obligés, entre guillemets, de venir
vivement invités, en tout cas.
Ouais, voilà, vivement sollicités pour y participer. Du coup, pour se construire une culture commune, voilà. Et c'est un peu le principe d'acquisition de compétences et de savoir, et puis ensuite, après, pour le recracher entre guillemets dans le laboratoire. C'est un atelier, c'est un laboratoire de création où il va se passer des choses et la personne qui est en face d'eux, ben, elle a déjà fait des créations, mais pas celle-là en tout cas.
Alors, cette résidence s'organise en partenariat avec Cyclic.
Tout à fait, cette résidence, cette année, c'est accompagnée par Cyclic, qui nous a présenté Stéphane Bouquet.
L'agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique.
Patrick Chia devait intervenir avec Stéphane Bouquet, et donc, au départ, le projet était assez... Vous savez, le titre du projet, c'est Portrait de soi, Portrait de ville. Et devait y avoir vraiment un travail de réalisation et de film, voilà. Et comme Patrick Chia n'a pas pu suivre le projet, il est venu que un week-end, bah, le week-end dernier. Du coup, c'était le volet vraiment réalisateur, réalisation, il a disparu. Mais du coup, l'implication, je pense, a été moins que ce qu'on aurait
pu. Ce qui aurait pu être prévu au départ.
Cette année, c'est vraiment de la poésie et c'est vraiment le travail du mot.
Alors, à quel moment on va pouvoir avoir une restitution du travail
Alors, la restitution du travail de Stéphane Bouquet aura lieu le 20 avril à Télème, à 20h30.
D'accord.
C'est une entrée gratuite, voilà, tout le monde est bienvenu. Tous les ans, c'est un chouette moment, le moment de la restitution, parce que les étudiants, ils essayent de nous faire partager tout ce qui s'est passé pendant l'année, donc c'est comme un moment touchant, on va dire.
Il serait temps de rencontrer pour de vrai l'artiste en résidence.
Stéphane Bouquet, donc vous êtes auteur de livres de poésie. Donc vous avez publié notamment Nos Amériques en 2010, Les Amours suivants en 2013. Alors vous êtes également traducteur de poésie d'auteurs américains, scénariste et même danseur. Alors je ne sais pas si on doit dire de vous, vous êtes auteur, artiste, un artiste plutôt pluridisciplinaire. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela en fait ? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous contenter de la seule écriture ?
Je crois que c'est la vie elle-même qui, en fait, ouvre sur des perspectives qui ne sont pas forcément des perspectives que j'avais vraiment envisagées. Par exemple, quand Mathilde Monnier m'a demandé de danser dans son spectacle, j'avais jamais pensé que j'allais danser, en fait. Donc, je pense que ce qui a l'air d'être une pluridisciplinarité, c'est beaucoup lié à une forme d'ouverture que j'ai sur la vie et sur ce qui arrive, en fait. Je suis très... attentif au hasard qui peuvent se créer, à tout ce qui pourrait arriver à l'improviste, être imprévu. Et j'aime pas du tout, c'est sans doute ça qui explique que je change beaucoup de carrière, entre guillemets, en tout cas de façon de gagner ma vie, c'est que j'aime pas du tout être savoir ce que je vais faire l'année prochaine, en fait.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'angoisse profondément.
D'accord.
Et donc, ça implique, évidemment, si on ne sait pas ce qu'on fait l'année prochaine, ça implique qu'on change sans arrêt, en fait.
Alors, comment êtes-vous venu à la poésie en tant que telle avant la poésie, vous avez écrit des romans. Pourquoi plus la poésie
Parce que, en fait, je ne m'intéresse pas beaucoup à la narration. En fait, je ne m'intéresse pas beaucoup aux histoires. Je n'ai jamais trop aimé les histoires. Je n'ai jamais aimé qu'on me raconte des histoires quand j'étais petit. Et du coup, j'aime pas tellement raconter, c'est-à-dire que j'ai tendance à plus y croire au bout de 4 pages. Et là, les histoires, ça m'intéresse pas tellement, en fait. Et il me semble quand même que le roman, aussi moderniste soit-il, c'est quand même quelque chose qui a un rapport aux histoires. Alors que la poésie, ça a plutôt rapport à des questions qui me préoccupent plus, c'est-à-dire à des questions peut-être plus abstraites, qui sont qu'est-ce que c'est que le temps, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que trouver une bonne forme pour sa vie ? Des choses comme ça, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage ? Est-ce que le langage, ça nous permet vraiment de communiquer avec les autres ou ça nous enferme, au contraire, dans une espèce de prison ? Des choses comme ça, qui sont des questions peut-être un peu plus abstraites que des questions purement narratives, même si, évidemment, le roman aborde aussi ces questions, mais par le biais de la narration. Et d'une certaine manière, je préfère les aborder un peu plus frontalement, un peu plus directement.
Pour autant, d'un point de vue technique, votre poésie ressemble de la prose
D'un point de vue technique, ma poésie, bon, ça reste de la poésie au sens où les questions que pose le langage, c'est peut-être une des choses qui caractérise la poésie, c'est que les questions que pose le langage sont un peu quand même un des sujets du poème en général. Donc, est-ce que par exemple, on peut avoir une conversation ou pas ? Ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Donc c'est vrai que je ne fais pas du tout une poésie abstraite ou incompréhensible. Je fais une poésie relativement simple. Mais en même temps, il n'y a pas du tout de récit. Plutôt une façon de regarder comment les gens vivent.
On va parler un petit peu plus concrètement de cet atelier d'écriture poétique que vous animez pour les étudiants. Alors, autour du thème portrait de ville, portrait de soi, qu'est-ce que vous fabriquez dans cet atelier? Quelle est votre proposition aux étudiants? Alors, j'emploie le terme fabriquer, c'est pas vraiment hasard. Je crois l'avoir entendu dans votre bouche lors d'une soirée rencontre avec vos lecteurs à la librairie Le Livre. C'est plutôt donc le sens se fabriquer, la question de faire ensemble, d'être ensemble me paraissait importante pour vous d'un point de vue littéraire. Donc, qu'est-ce que vous faites ensemble avec les étudiants dans cet atelier?
Parce qu'on fait ensemble, c'est assez simple, c'est un livre.
D'accord.
C'est-à-dire, l'idée, c'est que chaque étudiant est responsable du chapitre d'un livre qui porterait autour de la relation qu'on a aux villes, à une ville en l'occurrence, et disons à la ville de Tours, et la façon dont cette relation qu'on a avec une ville, ça peut nous aider à nous construire, nous, en tant que sujet, en tant qu'individu libre, indépendant, etc. Donc ce qu'on fabrique, c'est ce livre, et on essaie de trouver autant d'entrées qu'il y a d'étudiants pour dire quelque chose du rapport à la ville, en fait. Ça puisse être le rapport au magasin, le rapport aux gens qui sont sur les trottoirs, la forme de la ville, enfin, la rivière qui la traverse. Toutes ces choses, en fait, sont des choses qui permettent de dessiner le portrait d'une ville.
Et pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé par la ville?
Parce qu'il me semble que c'est une des modalités essentielles de l'être ensemble contemporain, en fait, que c'est quand même là où vivent la majorité des gens dans nos sociétés, et je crois dans toutes les sociétés du monde, en fait. Et donc, comprendre ce qui se noue dans les relations entre les êtres humains dans une ville, ça me semble essentiel, puisque aussi bien c'est notre expérience, en fait, que c'est ce à quoi on est, entre guillemets, condamné, parce que c'est quand même très difficile de ne pas vivre dans une ville aujourd'hui. Donc, ça me préoccupe et ça m'intéresse, parce que ça me semble être le lieu du partage, de quelque chose qui est une vie ensemble, une vie commune.
Est-ce que vous êtes satisfait du travail des étudiants jusqu'à présent?
Jusqu'à présent, oui. Après vraiment, là, les grands jours arrivent. Donc, ouais. Pour l'instant, toute la première partie de l'atelier, ça a été comme beaucoup des exercices que je leur donnais avec des consignes avant de les lâcher dans la nature, c'est-à-dire dans la nature de leur propre écriture. Aventure beaucoup plus en fait, difficile, parce que tenir une écriture, un texte, aussi court soit-il, sur plusieurs semaines, c'est pas si simple, en fait. Mmh. Il faut continuer à y croire, c'est ça la grande question, continuer à croire à ce qu'on écrit. Mmh. Mais oui, pour l'instant, oui, je suis satisfait en attendant de voir la production de leur texte fini.
Alors vous avez contribué bien sûr à nourrir leur écriture, alors au travers de ces ateliers, mais également au travers des différents événements que vous les avez invités à partager autour de, ça pourrait être des spectacles de danse, ce genre de choses. Donc vous les avez nourris, mais est-ce que vous-même avez été nourri par eux? Est-ce que vous allez tirer quelque chose de cette expérience auprès d'eux?
Alors j'ai été nourri, il y a des pistes qui se sont confirmées d'une certaine manière. J'aime pas trop parler de ce que je suis en train d'écrire.
D'accord.
Parce que je trouve que d'effleurer ce qu'on est en train d'écrire, si on est capable de dire ce qu'on écrit, c'est que c'est déjà plus tellement la peine de l'écrire, en fait. Écrire, c'est quand même faire venir en soi quelque chose qu'on n'imaginait pas tout à fait qui allait venir. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai testé avec eux. J'ai fait des tests avec eux, en fait, sur des choses. Par exemple, sur comment on peut entendre une conversation dans la rue et la remettre dans un texte. Et ça, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse pour ma propre écriture. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est, en leur disant, bien évidemment, c'est de tester des choses qui m'intéresseraient littérairement, en fait, ou stylistiquement, et dont j'aurais envie, éventuellement de le faire. Donc ça m'a apporté là-dessus, c'est-à-dire de voir ce qui était ou pas possible.
Et donc, pour terminer, vous avez passé quelques semaines au cœur de la ville de Tours. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville, en trois mots, si déjà elle vous inspire quelque chose? On espère que oui, quand même.
Bah déjà, pour moi, c'est une ville. Ce qui est assez important, c'est que je suis très sensible au fleuve. Et il n'y a pas de ville sans fleuve, pour moi. C'est-à-dire des villes qui n'ont pas de fleuve ou qui n'ont pas de rivière. Je trouve que c'est des villes qui sont un peu, un peu mortes. Donc je suis très content d'avoir ce grand fleuve, en fait, qui traverse. Et c'est vrai que le soir, je vais très très souvent me promener sur les ponts au-dessus de la Loire. Ça m'apporte quelque chose. Autrement, enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne saurais pas trop dire. Sinon, cette chose étrange quand même, que je trouve que c'est une ville où les quartiers sont très très hétérogènes. C'est très collé. En fait, il y a cette espèce de... Il y a quand même un urbanisme très étrange. Je trouve que cette rue nationale vraiment divise la ville en deux. J'imagine qu'après, dans les banlieues, c'est encore tout à fait autre chose. Mais il y a vraiment cette espèce de chose très hétérogène qu'on voit quand même pas souvent entre la ville médiévale ou renaissance plutôt et la ville, disons, 18-19e siècle. Et ça, je trouvais ça intéressant, cette espèce de patchwork un peu. Il y avait quelque chose de l'ordre de la cicatrice dans cette ville, voilà, pour le dire mieux. Que je trouvais intéressant. Je trouve que la rue nationale, c'est une grosse cicatrice. Que ça relie deux parties de la ville qui ne vont pas bien ensemble complètement d'un point de vue architectural et même du point de vue des ambiances.
Eh bien, on va retrouver les étudiants pour un nouvel atelier d'écriture poétique. Merci Stéphane Bouquet.
Merci à vous.
Moi, au début, j'avais peut-être des a priori un peu sur la poésie, sur la structure, etc. Et le fait qu'il nous en ait fait découvrir d'autres genres, comme la poésie sonore ou ce genre de choses, puis même de la poésie, de la prose.
Il parle souvent de la démocratie.
L'art démocratique.
Voilà. Et du coup, c'est ça, je connaissais pas du tout, et je trouve ça super intéressant de revenir sur quelque chose de démocratique, justement.
C'est pas une poésie conventionnelle, c'est une poésie avec une pluralité de formes. Donc.
Le fait qu'on ait des intervenants qui viennent nous parler d'autres choses, enfin de la ville sous d'autres formes, je veux dire, ça nous permet d'avoir des autres outils pour le faire.
Ouais, ça nous a permis de la regarder plus que de la voir.
Oui, c'est ça.
Parce que bon, on
y voit des choses qu'on
ne
voyait pas.
On vit ouais, dans cette ville, mais on ne regarde pas forcément autour et puis... Puis lui, il nous a appris un peu à regarder vraiment les choses à notre manière. Donc.
Bon, bah, je vais aller voir maintenant comment les étudiants mettent ça en pratique. Je crois qu'il va y avoir une lecture. Je pousse la porte de l'atelier.
Manon, tu commences. Toi, on a vu le texte et tout ça, mais tu vois pas qu'il y a un titre.
Il n'y a pas de titre, la mise en page, c'était pas forcément la finale. Mais...
Donc il y a ce travail-là à faire.
Okay. La porte. Elle a réussi à fermer la porte. Le vent est plus froid que lorsqu'elle était venue pour lui dire que ça n'a pas de sens, que rien n'a de sens et que c'est la fin, depuis le début. Elle lui a dit puis elle a fermé la porte. Elle est ressortie et maintenant elle doit marcher. Elle doit s'éloigner de cette porte où elle a laissé celui qui l'aimait trop sans savoir aimer. Sous sa peau, à l'intérieur de ses veines, elle sent le vide d'avoir quitté ce qu'on aime, le vide dans le ventre, sous les ongles, dans les jambes, le vide d'avoir trop désiré. Elle réalise qu'elle est seule dans ce corps vide, seule dans cet amas de nuit, la nuit. Aujourd'hui, elle l'a quittée, elle a fermé la porte et y a laissé ses obsessions. La porte est refermée et ses obsessions derrière. Elle part, elle laisse la porte de ses obsessions, derrière. Elle n'est plus face à la porte, elle est maintenant face à la nuit. Elle sent ses pieds cogner le sol et le sol cogner ses pieds. Elle sent le vent qui n'est plus froid, enfin si, il est froid mais il caresse, il enveloppe. La nuit immobile l'accompagne. Elle s'est sentie légère tout à coup, comme si chaque parcelle de sa peau touchait une parcelle de nuit. Alors, elle a regardé la nuit. Elle a scruté l'invisible. Dans les flaques d'eau du bitume, elle a observé le reflet des étoiles. Elle a entendu aussi le murmure incessant de la ville qui s'endort. Elle a écouté le silence jamais silencieux de la ville. Elle a ressenti aussi l'odeur humide de ruelles jamais empruntées, de ruelles ouvrant sur mille autres ruelles. Et en voyant ces autres chemins qui s'offraient à elle, elle réalise qu'elle avait oublié la porte. Cette porte qu'elle envisageait comme seule réalité et qu'aujourd'hui elle laissait derrière elle pour s'ouvrir. Pour se laisser imprégner de cette vie autour d'elle. De cette ville autour d'elle. Ce soir-là, elle avait appris à regarder la ville. Appris à être dans la ville. Elle fait partie du bruit. Elle fait partie des gens. Elle n'est plus elle face à la porte, elle est elle dans la nuit. Elle est elle entière dans son corps. Elle est elle cherchant dans la noirceur urbaine l'émotion qui ne se voit pas mais se dérobe, sous une capuche, derrière un soupir ou un regard qui se perd. Toutes ces années, elle ne voyait d'image que dans le désir que contenait son corps. Dans la nuit, ce soir-là, elle réalise que la beauté jaillit d'une ruelle, une beauté fugace, une image plus subtile que la passion exacerbée de deux corps qui s'aiment. Elle a compris que la beauté de la ville n'est pas évidente mais qu'elle se recherche, et que pour la voir, il faut accepter de la regarder.
Merci. Vous avez des commentaires et moi je trouve qu'on est arrivé à un état pas mal du texte.
Mais dedans. Je me suis fait dedans.
Oui, voilà. Et puis là, alors il y a une chose, c'est que le samedi, hein, on pensera à travailler la voix un peu.
Là, vous disiez un peu, Julie, pardon, un peu pour toi. Je sais pas si... Par exemple, à un moment, tu as dit dans la vie,
on a pensé.
Alors moi, je connais le texte. Et là, comme tu le dis, j'ai l'impression que tu viens de te tromper et que tu corriges. Je sais pas si ça vous a fait cette impression. Donc il y a vraiment un travail de la voix, Alors c'est un texte qui est un peu intérieur, donc forcément tu es porté à lire intérieurement, mais il faut que tu le projettes. Hein. Pensez que Thélème, il y a 600 places. Je pense pas qu'il y aura 600 personnes. Mais sait-on jamais. Si vous avez une très grande famille.
Ça a l'air de bien avancer, je vous donne rendez-vous le 20 avril à 20h30, salle Thélème, pour la restitution publique de l'atelier d'écriture de Stéphane Bouquet.
Retrouvez cette émission spéciale dans le cadre de la résidence de Stéphane Bouquet à l'Université François Rabelais de Tours sur le site despochessousyeux.fr.